RFI, 6h30 à Abidjan, 8h30 à Paris et Khartoum.
RFI Matin.
Édouard Dupénoat, la Côte d'Ivoire à la une de votre journal où le PDCI cherche la parade.
Oui, boycott à l'Assemblée, tentation de manifester, l'une des principales formations de l'opposition politique ivoirienne qui ne décolère pas après que son leader Tidiane Thiam a été quasiment radié des listes électorales. L'ancien banquier qui pourrait aussi perdre la tête de son parti. Le tribunal de première instance d'Abidjan examine aujourd'hui une autre plainte le concernant. 54 soldats béninois morts la semaine dernière dans l'attaque du point triple dans le nord du pays. Bilan officiel. Le porte-parole du gouvernement appelle aussi à une collaboration sécuritaire beaucoup plus étroite et plus efficace avec ses voisins du Sahel. Une amulette ou un bijou, seul moyen d'identifier des dépouilles. Les proches des disparus au Mali redoublent d'inquiétude après que des villageois ont découvert une quinzaine de corps largement décomposés près d'un camp militaire dans l'ouest du pays. La justice guinéenne requiert en appel 5 ans de prison contre l'opposant Alioubah. Le verdict n'est pas attendu avant un mois. Et puis le dossier de ce journal nous emmènera dans les allées de Derb Ralef, très grand marché marocain. Eldorado pour quiconque cherche des pièces détachées électroniques. Faut-il le rénover? Faut-il en faire un centre commercial flambant neuf? Les commerçants sont tentés entre la modernité et la crainte de perdre leur âme.
Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire fait entendre sa colère après la radiation annoncée de son leader des listes électorales.
Tidiane Thiam, qui se verrait ainsi privé d'élections présidentielles au mois d'octobre prochain. Des appels à manifester se font entendre pour aujourd'hui. Le désordre ne sera pas toléré, prévient le gouvernement. Hier, les députés PDCI ont laissé vide leur siège à l'Assemblée. D'autant que Tidiane Thiam n'en a pas fini avec la justice. Le tribunal de première instance d'Abidjan examine aujourd'hui une affaire qui pourrait lui coûter la tête de sa formation politique. Abdoulaziz Diallo.
Tidiane Thiam est visé depuis le mois dernier par une plainte de Valérie Yapo, militante et membre du bureau politique du PDCI RDA. Elle conteste son élection à la tête du parti en décembre 2023. Son argument, au moment du congrès, Tidiane Thiam n'avait plus la nationalité ivoirienne. Elle s'appuie sur l'article 48 du Code de la nationalité, le même qui a conduit à sa radiation de la liste électorale. Un Ivoirien majeur perd sa nationalité au bout de 15 ans s'il acquiert volontairement une nationalité étrangère ou en reconnaît une. Maître Alain Bokola, avocat de la plaignante, estime que la justice ne peut se contredire. La juridiction ne peut pas remettre en cause ce qu'elle-même vient de décider. Nous sommes confiants à 90%. La défense, elle, balaie ses arguments. Maître Rodrigue Dadjé estime que l'article 48 ne s'applique pas à Tidiane Thiam, car il est né français du fait de sa filiation. Les avocats de Valérie Yapo avaient aussi demandé la suspension des organes du parti et la nomination d'un administrateur provisoire. Mais cette requête a été rejetée le 11 avril par la juge des référés qui s'est déclarée incompétente. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Les autorités béninoises communiquent un très lourd bilan officiel une semaine après l'attaque du point triple. Cette zone septentrionale du pays, aux frontières avec le Niger et le Burkina Faso, des hommes armés ont mené le 17 avril l'attaque la plus lourde que les forces béninoises aient jamais essuyée depuis que ces groupes tentent de progresser vers le sud du Sahel et vers le golfe de Guinée. 54 soldats tués, dit Wilfried Umbeji, le porte-parole du gouvernement, qui déplore aussi la coopération militaire insuffisante à ses yeux avec les pays voisins.
Je voudrais, avec émotion et non sans gravité, réitérer les condoléances et la compassion du gouvernement à l'endroit des familles éplorées, à toute la nation. Chaque enfant du Bénin qui meurt, c'est toutes les familles du Bénin qui sont éplorées. Et dans le cas d'espèce, 54 stabilisés, même si ça ne fait pas les 70 et plus que les gens ont annoncé, c'est beaucoup, voire trop, il est difficile d'en parler. Notre situation serait autrement plus facile si nous avions une belle coopération avec les pays qui nous entourent, si de l'autre côté de la frontière, il y avait un dispositif au moins comme le nôtre, ces attaques ne se dérouleraient pas de cette façon ou ne se produiraient même pas. Ce n'est pour accuser personne. Nous sommes assez responsables. On ne souhaite pas perdre davantage d'enfants. Depuis ces événements, le chef de l'État a eu des séances multiples avec le haut commandement militaire pour évaluer la situation, les stratégies. Tout cela a été débattu. Je peux vous dire notre assurance qu'à un moment ou à un autre, nous vaincrons. Nous ne céderons pas. Tôt ou tard, nous viendrons à bout de ces criminels et de leur entreprise mortifère.
Wilfried Oumbedji, porte-parole du gouvernement béninois au micro RFI de Jean-Luc Aplogan. Les proches des personnes disparues il y a 2 semaines dans l'ouest du Mali redoublent d'inquiétude après la macabre découverte de ces derniers jours. Le 12 avril dernier, les FAMA, l'armée malienne et leur supplétif russe de Wagner enlèvent une 60aine de civils à Sebabougou dans la région de Koulikoro. Mais en début de semaine, des habitants proches du camp militaire de Kouala découvrent 13 dépouilles largement décomposées, quasiment pas identifiables. Alors que les FAMA n'ont pas communiqué sur ces arrestations, les habitants redoutent fortement que ces dépouilles ne soient bel et bien celles de leurs proches. Précision Abdoulaye Diko de la rédaction en full des deux RFI.
Sur les 13 corps découverts en putréfaction et filmés par les habitants, un seul a pu être identifié. J'ai reconnu un homme de la communauté mort arrêté à Sebabougou, témoigne un habitant. Je l'ai reconnu grâce à l'amulette qu'il portait ainsi que ses cheveux, dit-il.
Ils étaient tous dans un état avancé de décomposition, ce qui rendait difficile leur identification. Il faut vraiment être un proche de l'individu pour le reconnaître, soit par ses habits, soit par les chaussures ou autres signes sur la personne. Sinon, à travers le corps, c'est impossible. Certains corps restent toujours ligotés, même après leur décomposition.
Ce témoin ajoute que ses compagnons et lui ont dû fuir parce que 2 hélicoptères survolaient la zone. Selon un autre témoin, cette découverte intensifie l'angoisse des proches de la 60aine de personnes arrêtées samedi 12 avril 2025 à Sebabougou par l'armée malienne et le groupe Wagner.
Ma plus grande préoccupation en ce moment, c'est d'avoir des nouvelles de mon cousin et de mon frère arrêtés par l'armée malienne, qu'ils soient morts ou vivants. Je suis inquiet, mais nos mamans le sont encore plus. L'année dernière, le père de mon cousin a été tué par l'armée malienne. Maintenant, il ne lui reste que sa maman et son épouse. Mon frère, lui aussi, l'année dernière, a été arrêté à Sebabougou avant d'être relâché. C'est ce qui accroît notre inquiétude.
L'armée malienne n'a toujours pas communiqué ni sur ces arrestations, ni sur cette découverte de corps.
À précision signée, Abdoulaye Diko.
La justice guinéenne requiert 5 ans de prison ferme contre Alioubar.
La cour d'appel de Conakry, en l'occurrence, où comparaissait encore l'opposant, leader du modèle, accusé de diffamation et d'offense au chef de l'État, le ministère public réclame donc 5 ans de prison. Les avocats d'Alioubar font entendre leur colère d'une part contre la lourdeur de cette réquisition et d'autre part contre la date du délibéré, attendu dans plus d'un mois, Mouktarba, le 28 mai.
Incompréhension et inadmissible, entendait-on dire sur la table des conseillers de Mamadou Alioubar, qui ne connaîtra son sort que dans un peu plus d'un mois. Maître Oulé Matouba dénonce ce qu'elle appelle l'excès de zèle du ministère public.
Qui défendent aujourd'hui à corps et à cri, ne leur a pas dit ça. La charte qu'il a signée lui-même, il dit que tous les citoyens guinéens sont égaux devant la loi et que tout le monde doit être traité de la même manière devant les juridictions. Vous l'avez constaté avec nous, le ministère public n'a rien produit de potable. En relevant appel, ces réquisitions sont vides de sens, il n'y a aucune base légale.
L'avocate s'interroge sur les motivations qui ont amené la cour à renvoyer ce délibéré jusqu'au 28 mai prochain.
Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut attendre le 28 mai pour connaître le sort de M. Mamadou Alioubar. Dans quelle Guinée nous vivons? Dans quelle justice nous vivons? Quel pays nous voulons léguer à notre progéniture? C'est une honte nationale, c'est une honte pour toutes les personnes qui aspirent à la justice, qui portent la robe noire pour défendre. Aujourd'hui, nous avons honte même de dire que nous exerçons dans ce pays-là.
Pour sa défense, Madame la présidente du tribunal, Hadja Fatou Bangoura, a redonné la parole à Alioubar qui a déclaré, je cite, « Je suis victime d'une persécution politique déguisée en procédure judiciaire ». Mouktarba Conakry, RFI.
Une affaire judiciaire encore en Tunisie, cette fois où c'est un avocat bien connu qui fait désormais l'objet d'un mandat de dépôt, maître Ahmed Souab. 70 ans, il avait été arrêté lundi, il est sous le coup de plusieurs chefs d'accusation, son domicile a été perquisitionné d'ailleurs. Tout cela après des déclarations de sa part, après le vaste procès, très controversé, dit du complot contre la sûreté de l'État. À Tunis, pour RFI, Lilia Blaise.
Lors d'une conférence de presse au syndicat des journalistes, le fils et le frère de l'avocat Ahmed Souab ont dénoncé l'arrestation politique, selon leurs mots. Elle a eu lieu suite à une vidéo d'Ahmed Souab qui utilise une métaphore et un geste pour dénoncer le manque d'indépendance de la justice dans le procès politique du complot contre la sûreté de l'État. Une raison insuffisante pour l'accuser de terrorisme, selon son fils Saeb Souab.
Là, il ne mérite pas d'être inculpé pour le terrorisme, de 1. De 2, son âge et sa santé. De trois, l'affaire elle est vide. C'est genre, on arrête la personne, puis on perquisitionne. Si on trouve un truc, allez, on va voir. Donc, c'est au pif.
Son arrestation a provoqué une vague de solidarité au sein de plusieurs organisations, mais surtout de la centrale syndicale, l'UGTT, plutôt discrète sur le plan politique ces derniers mois. Un soutien massif sur lequel compte Mondji Souab, le frère de l'avocat.
On considère que les autorités ont fait une faute grave. Ahmed a regroupé beaucoup de Tunisiens, pour ne pas dire une grande majorité de Tunisiens. Tous les partis politiques ont manifesté leur soutien.
Un appel à manifester ce vendredi pour réclamer la libération d'Ahmed Souab a été lancé par plusieurs organisations de la société civile. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Un marché historique de Casablanca tiraillé entre la réhabilitation totale et la crainte de perdre son âme, c'est le dossier de ce journal.
Pour nous perdre un peu dans les allées de Derbralef, depuis que l'électronique existe, depuis peu ou prou 100 ans donc, les artisans les plus doués et les meilleurs revendeurs du royaume y sont installés. Alors bien sûr, la promesse des autorités d'une modernisation complète, d'une refondation totale de ce marché en tente, certains. Mais à quel prix ? Déambulation, François Humfer Kataji.
C'est un dédale d'allées minuscules où l'on trouve de tout, du portable de la fin des années 90 jusqu'à l'iPhone dernier cri. Les artisans de ce marché sont reconnus dans tout le pays pour leurs compétences.
Sur Derbralef, tu vas réparer toutes les choses que tu ne peux pas réparer ailleurs.
Zakaria est à la tâche devant un microscope, un fer à souder et de multiples composants électroniques.
Je fais la réparation pour les iPhones, les ordi, aussi les téléphones Android.
Ce matin-là, il tente de régler un problème de reconnaissance faciale sur un téléphone de la marque à la pomme, mais dans l'obscurité, car les générateurs qui fournissent l'électricité aux commerçants n'ont pas encore été mis en route.
Nous avons besoin d'électricité. Nous n'en avons pas ici. Et on n'aime pas aussi les gens qui harcèlent les clients.
Zakaria est sensible à l'idée de réhabiliter Derbralef, tout en préservant son atmosphère unique entre entraide et mise en commun des compétences de chacun.
Si le gouvernement entre dans ce marché et veut en faire un centre commercial, le problème c'est qu'ils voudront tout savoir sur ce marché.
À Derbralef, les clients aiment les prix, souvent peu ou pas taxés, les produits sont abordables et négociables. Amine a parcouru 40 km aujourd'hui pour trouver un nouvel objectif pour son appareil photo.
Le marché Derbralef, c'est une référence pour nous, même un réflexe pour nous, tout ce qui est électronique, tout ce qui est achat d'ordinateurs et tout ça, de réparation. Donc, tant qu'il est sur casa, on souhaite tout bien pour ce marché-là.
D'après certains commerçants, cette réhabilitation complexe à mettre en œuvre pourrait être retardée par les échéances électorales à venir au Maroc, les élections législatives de 2026 et communales de 2027. François Humfer Kataji, Casablanca, RFI.
L'un des arguments qui pousse à un meilleur encadrement de ce marché, c'est celui des déchets électroniques. Il faut absolument que les autorités se saisissent de cette bombe écologique, nous dit Anaïs Audrey-Kouassi, doctorante en droit de l'environnement et développement durable à la faculté des sciences juridiques de Salé.
Le marché de Derbralef est un lieu très emblématique où se concentrent de nombreuses activités qui sont liées aux équipements électriques et électroniques usagés. Donc on va parler de revente, de réparation, de démontage, etc. Mais bien sûr, ce sont des pratiques qui restent largement informelles. Et donc, pour moi, il faudrait dans un premier temps mettre en place un cadre légal spécifique pour ce secteur informel-là. Donc c'est-à-dire développer un cadre juridique qui est assez souple. Oui, mais quand même structurant qui va reconnaître l'existence de ces marchés informels, comme des Derbralef par exemple, et proposer par exemple des mécanismes d'intégration. Et dans un second temps, pourquoi pas créer des centres agréés de collecte et de pré-traitement pardon, à proximité de ces marchés-là. Donc ça va permettre de pré-traiter, de valoriser donc ces déchets.
Anaïs Audrey-Kouassi, un dossier de François Humfer-Kataji.
Et un journal d'Edouard Dupénoit.